Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois. Aujourd'hui, nous accueillons un grand acteur et metteur en scène. Sa carrière est remarquable. Il a fréquenté des personnages aussi différents que Tartuffe, Figaro ou Pierre Lemoyne d'Iberville. Ce dernier rôle, celui d'Iberville, qu'il incarna avec brio dans ce qui fut l'une des séries télévisées d'envergure des années 60, a impressionné toute une génération. On a pu également le voir au Festival shakespearien de Stratford, en Ontario. Au gré du temps, ce comédien a endossé les rôles éponymes de Don Juan, de Lorenzo et d'Édipe, ou encore s'est retrouvé dans la peau de Sir Wilfrid Laurier. Parallèlement à sa carrière, on le retrouve en fonction, un peu partout, à la présidence de l'Académie québécoise de théâtre ou bien de celle du Conseil canadien du statut de l'artiste. Son travail est souligné par de multiples récompenses, dont le titre d'officier de l'Ordre du Canada. Il est également décoré de l'Ordre national du Québec. Un privilège d'avoir avec nous M. Albert Miller. Bonjour à vous.
Bonjour M. Dubois.
Quelle carrière!
Ah ben là, quand vous commencez à jouer dans ma carrière... ah ben oui, j'y pense pas trop souvent parce que ça me fatigue. C'est pas possible que j'ai fait tout ça.
Je disais dans la présentation que le rôle d'Iberville a marqué toute une génération, la mienne particulièrement.
Ah ben oui,
ça a vraiment été, à cette époque, une série de grande envergure.
Ça a été la plus grande. Ça a été la plus grande. Après ça, ils n'ont plus rien fait. Ils ont commencé à boucler les malles et puis donner ça à l'industrie privée. Ça a été la plus grande série. Vraiment, d'Iberville, on était de caractère hollywoodien. On avait des arcs sur le plateau. On était en Technicolor 16 et non pas en 35. Là, vraiment, c'était pas Radio-Canada. Radio-Canada, l'ONF était en 35 pour nous. Mais quand même, on était... c'était des tournages. Il y avait 100 figurants par jour, 15 rôles principaux. On se déplaçait le matin. C'était une armée qui se déplaçait. Un bus, deux bus, et puis une quinzaine de taxis.
Et le rôle que vous interprétiez, qui était le rôle titre, était un rôle gigantesque également.
Il devrait être notre héros national. C'est un Montréalais. La famille Lemoyne était de gros marchands ici. Ils venaient de France. Et puis, d'Iberville, c'était des marchands. Donc, il est devenu héros pour deux raisons. D'abord, parce que son père avait besoin de fourrures. Il fallait qu'ils aient la paix avec les Amérindiens pour avoir les fourrures et faire la traite de toutes sortes de choses. Et ensuite, c'était un garçon plein de vie. Alors, il a fait un bébé à une jeune fille de Montréal, de Ville-Marie, c'est-à-dire, à l'époque. Et je pense que les curés n'ont pas beaucoup aimé ça. Et il a dû fuir. Il est devenu un héros un peu à cause de ça, parce qu'il a dû s'en aller sur les bateaux. Et c'est un être extraordinaire qui a été mis de côté au profit de l'art des hormones, que le pauvre vieux a commis un suicide un peu bête en lançant un baril de poudre sur une branche d'arbre. Il y en est mort. Mais d'Iberville, si vous fouillez un peu, ça aurait pu être notre grand héros national.
Un rôle pour vous marquant, parce que vous n'étiez pas à votre début de carrière, mais on remonte quand même plus de 40 ans en arrière.
J'étais encore assez jeune, puis disons que j'avais pas le physique non plus d'un Lionel Villeneuve ou de ces gars-là qui auraient pu jouer le rôle, parce que je pense que d'Iberville était un gars très costaud.
Mais vous l'avez incarné avec brio.
Oh ben oui, mais c'était magnifique à jouer, hein. C'était extraordinaire. Je suis resté, vous savez, dans la vie d'un acteur ou d'une comédienne, il y a toujours un rôle qui vous marque, hein, même si vous avez des carrières extraordinaires.
Celui-là vous colle à la peau.
Dans la rue, on me dit encore bonjour d'Iberville, comme Peter O'Toole s'est fait dire bonjour Laurence d'Arabie, tout ça. Vie.
C'est flatteur.
Ah, mais c'est formidable. On se sent très utile à la société dans ce temps-là.
Oui.
Alors, voilà.
Dites-moi, le goût pour le théâtre vous est venu au Collège de l'Assomption où vous faisiez vos études. Vous étiez, semble-t-il, peut-être aussi attiré par les ordres.
Ben, à cette époque-là, vous savez, on ne choisit pas les ordres parce que d'être prêtre pour avoir des subventions, mais c'était un peu la tendance. On nous poussait un peu vers ça et c'était un honneur d'avoir accès au au sacerdoce et tout ça. Et puis, comme moi, je viens de Villemar-Saint-Henri, tout ça, sud-ouest de Montréal, et puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Ma mère était veuve, elle travaillait pour gagner notre vie. Je me voyais mal. Mais quand j'ai dit que peut-être je viendrais un curé, là, il s'est trouvé, ma mère est allée chercher de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une petite bourse qui m'a fait étudier. Mais dès l'âge de... Dès méthode versification, dès l'âge de 15 ans, j'ai averti l'œuvre des vocations que non, je m'en allais pas vers la poétrie. Et ils ont été très chics. Ils m'ont aidé jusqu'à la fin de mon cours classique. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est comme ça que j'ai pu faire mes études jusqu'à la fin, en me fixant, bien sûr, comme avenir, le théâtre.
Il y a eu un voyage, je pense, qui a été déterminant pendant ces études en Ontario. Vous étiez allé voir une pièce qui
Vous savez ça, vous. On avait mes oncles, moi, dans ce coin-ci, tout le monde travaillait au chemin de fer. C'était des cheminots, ils travaillaient soit au Canadien national, au Canadien Pacifique. Donc, on avait droit à des passes. Et c'est comme ça que mon cousin Charles Relais, son père travaillait au CP, je pense. Et puis, on a obtenu deux passes pour Stratford. Stratford venait d'ouvrir. Alors, on voulait voir ça, nous. Puis même, mon cousin voulait aussi peut-être faire du théâtre, lui aussi. Alors, on est parti un été. On a demandé des passes pour Stratford. Il fallait passer par Toronto, mais comme encore, d'ailleurs, on changeait de train. Hein. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Stratford, la troisième saison de Stratford, encore sous la tente. Je me souviens de Lorne Greene, peut-être Chris Plummer, des comédiens extraordinaires. Et là, j'ai vu mon avenir. Là, quand j'ai assisté, Shakespeare, c'est extraordinaire. Hein.
Ça a été votre coup de cœur.
Ah, ça a été mon coup. Là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Que j'ai vu l'entrée de Jules César sous la tente, dans la fumée, avec ce merveilleux-là et ce grand texte-là. Là, c'est irrésistible.
Et ce destin vous rattrapera puisque vous deviendrez directeur à Stratford, plusieurs années, bien sûr, plus tard.
Quarantaine d'années plus tard,
on pourra en reparler parce que vous nous avez aussi apporté des pièces musicales qui sont des coups de cœur.
Oui.
J'aimerais bien que vous nous présentiez la toute première que vous avez choisie, qui est de Brel.
Oui, Brel, c'était notre copain de l'époque. Surtout, je l'ai rencontré quand on était jeunes à Radio-Canada et tout ça. On a passé une partie de l'après-midi ensemble. Et puis, je suis resté accroché à Brel. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et là, j'ai mis une chanson que j'avais dite un jour avec Monique Miller. On avait fait une émission de télévision lors du 25e anniversaire de sa mort, je pense. Et la chanson des vieux amants.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège. T'es perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous aujourd'hui, un grand plaisir que d'avoir M. Albert Miller en confident, si j'ose dire.
Ben oui.
Vous parliez de Brel. Vous avez connu donc Jacques Brel à une certaine époque.
Je l'ai rencontré une fois, oui.
Et quelle impression avez-vous retenue de cette rencontre?
Ah, celle qu'on a tous, hein. Je veux dire, c'est un garçon, il était très franc, très ouvert. Alors, quand vous voyez les interviews de Brel, que vous le voyez parler, que vous le voyez chanter, que vous le voyez jouer, même il a fait du cinéma et tout ça, c'est lui. Je veux dire, c'était un gars très, très ouvert. Très...
Est-ce que vous sentiez à l'époque déjà que ça deviendrait presque un monument de la chanson?
Ah oui, mais il l'était déjà. Déjà en partant, il y avait un bagout, il y avait un souffle dramatique extraordinaire, une voix. Et puis, en plus, cette poésie, son côté misogyne, enfin bon, on l'a accusé un petit peu, mais c'était l'époque. Hein. Aujourd'hui, on a appris à vivre ensemble, tant mieux. Seulement, quand on accuse des gens qui se comportaient d'une certaine façon il y a 40, 50, 60 ou 100 ans ou 200 ans, il faut replacer dans le temps, il faut replacer dans l'époque et comprendre qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça qu'on était élevé, que c'était comme ça qu'on abordait les choses.
Comme ça a été le cas, par exemple, avec les enfants de Duplessis. Parfois, on fait un jugement avec les yeux d'aujourd'hui sur une époque qui était différente.
Vous avez absolument raison. Ce sont beaucoup plus les mères qui ont abandonné leurs enfants que... Qu'est-ce que vous voulez? C'était comme ça. C'était honteux. C'était honteux d'avoir un enfant. Aujourd'hui, c'est une grâce de se retrouver enceinte et d'être le père aussi d'un petit enfant. Alors, moi, je lui pardonne ça bien facilement. Parce que moi-même, on l'était tous un petit peu misogyne.
On était issus de collèges classiques où les femmes n'étaient pas présentes
la Sainte Vierge remplaçait toutes les petites filles qu'on aurait pu donner un petit bec. Hein.
Oui, parce qu'on avait des écoles de garçons, des écoles de filles. La mixité que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas.
Si vous regardez les chansons de Brel, il y en a une, par exemple, que j'ai proposée récemment. C'est Orly. Alors, la chanson d'Orly, c'est de la grande poésie, c'est de la philosophie. C'est extraordinaire. Il observe à l'aéroport un couple qui se sépare. Ouais. Ce sont des amants, ce sont des amoureux. Et quand il dit qu'elle...
Que c'est Triss Orly avec ou sans Beco.
Avec ou sans Beco, mais quand il définit la jeune fille qui a les bras pendants, puis il dit, elle a 1000 ans, moi j'ai envie de pleurer. Là. C'est extraordinaire.
Ouais. Ouais. Puisqu'on parle de Brel, restons donc sur cette note.
Oui.
Une chanson qui personnellement, que j'adore, est à jeter par terre.
Ça tombe bien.
Oui, parce que c'est l'interprétation. Ce n'est pas Brel, mais l'interprétation, elle est vraiment majestueuse.
Ouais.
Vous avez choisi « Ne me quitte pas » interprété par...
Nina Simone. Grande, grande chanteuse.
Vous aussi, pour vous, c'est un coup de cœur extraordinaire.
Ah, moi, j'ai même des pièces de collection sur 78 tours. Pas 78, mon Dieu. J'ai encore mes 78 mises sur les disques vinyles. Et j'ai été, pas un collectionneur, mais un grand amant de toutes les grandes chanteuses de jazz américaines. J'en ai plusieurs et Nina Simone est parmi les premières.
Mais particulièrement cette interprétation.
Ah oui.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, pour s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain l'amour sera roi, ou l'amour sera loi, ou tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux je te raconterai l'histoire de ce roi Maude. N'en vois pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées, donne plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas.
Avec nous aujourd'hui, Albert Miller. Je vous fais une citation d'un auteur que vous connaissez, puisque vous avez été directeur à Stratford. Elle est de Shakespeare. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Commentez donc cette citation.
Je pense que c'est la partie, la citation de Shakespeare qui est le plus citée. Enfin bon, pour faire un pléonasme, ça, le monde est un théâtre, ben oui. Dans sa présentation du monologue « Être ou ne pas être », qui ne devait pas être dans la pièce de Hamlet, ce monologue-là apparemment n'a pas été écrit pour Hamlet nécessairement. Mm-hmm. C'est un monologue qu'il avait sur l'existence, comme nous nous sommes posé les mêmes questions après la guerre, la période existentialiste et tout ça. Et c'était... ce monologue-là, tout à coup, il l'a donné à Hamlet, il l'a inséré dans la pièce. Et là encore, c'est le même thème, c'est la vie, le théâtre et le miroir. Donc, le théâtre, c'est le miroir. On dit aux gens, regardez-vous, regardez-vous, la vie, regardez-vous. Et puis, voyez ce que vous avez l'air et pensez-en ce que vous voudrez. Où ça vous distraira, où vous allez évoluer, où ça va vous faire du bien, où vous allez changer. Donc, il prend très au sérieux le théâtre. C'est pour ça qu'il fait le contraire dans cette citation-là. Il dit, bon, ben, la vie est un théâtre où nous devons évoluer. Pour moi, c'est la même chose que le contraire, c'est-à-dire regarde, que la vie se regarde dans le théâtre et qu'elle fasse pour le mieux. Donc, c'est une préoccupation constante, un peu philosophique de Shakespeare.
Mais vous aussi, toute votre vie... ce théâtre, vous l'avez pris très au sérieux. Ce rôle d'acteur, vous l'avez pris très au sérieux.
Ah ben oui, c'est ma vie. Il ne faut pas penser que là, par exemple, j'ai pris ma vie, que ma vie a été une pièce de théâtre. Ma vie n'a pas été une pièce de théâtre. Elle continue à être une vie comme la vôtre, comme celle de tous ceux qui nous écoutent. Et la vie n'est pas facile. Je veux dire, c'est une chose... D'abord, juste de rester en vie, c'est tout un programme. Hein? Oui. Alors, parce qu'on est très éphémère, puis on est... Bon, il peut nous arriver des choses terribles. Alors, justement, j'ai eu le bonheur très tôt, de choisir une chose pour laquelle j'étais faite. Ça, j'aurais pu faire autre chose. J'étais fait pour d'autres choses. J'aurais pu être musicien aussi, tellement j'aime la musique, je travaille beaucoup avec les musiciens et ça. J'aurais pu être musicien, mais je suis paresseux. Apprendre le solfège, je trouvais ça long. Mais j'aurais pu être médecin. J'aime assez le monde, l'individu pour ça. J'aime pas le monde en général, mais disons l'individu. Soigner du monde, surtout depuis que j'ai été soigné, je trouve ça extraordinaire.
Mais je retiens juste une chose. Vous dites, je n'aime pas le monde. Que voulez-vous dire par cela?
Oh, ben, j'aime pas le monde. Écoutez, j'ai une tendance misanthropique. Pour deux personnes qui agissent correctement et qui font évoluer l'univers, je veux dire, il y en a des milliers qui nous font régresser par leur intérêt et par leur méchanceté.
Le monde vous déçoit.
C'est ce que je veux dire par là. Je ne suis pas assez prétentieux pour dire que le monde me déçoit, moi. Même Dieu ne peut pas être déçu par le monde parce que ça ne le regarde pas. Mais moi, je trouve que l'intérêt est tellement grand. Malgré tous les efforts qu'on fait pour... il n'est pas dit qu'il ne faut pas les faire, ces efforts-là. Mais je veux dire, malgré tous les efforts qu'on fait pour rendre le monde meilleur ou pour rendre service aux gens ou pour se rendre service à soi-même, il y a toujours quelqu'un de caché derrière la porte qui va vous foutre les bâtons dans les roues. Ça, c'est l'humanité. Et j'ai plutôt une tendance à dire pauvre humanité que joyeuse humanité.
Vous avez connu cela aussi?
Ben, fatalement. Disons que pendant toutes les années où j'étais très en avant, que je marchais, que je fonçais, que je travaillais, que je créais et tout ça, et que je m'occupais de ma vie et de celle de ma famille, parce qu'en même temps, j'ai eu une famille, des enfants, des divorces. Bon,
La vie, quoi.
Ouais. Mais de front, là, pendant tout ce temps-là, je me suis pas retourné la tête souvent. J'ai jamais regardé derrière le peloton. Et quand je suis arrivé dans ma cinquantaine, ma soixantaine, que je me suis mis à prendre le temps, à respirer un peu plus, à regarder un peu derrière, là, j'ai vu ce qui s'était passé, qui ne m'aurait pas plu normalement si je l'avais vu plus jeune.
Mais est-ce que vous avez aussi, et sans aucun doute, conscience du bonheur que vous avez pu faire vivre à tellement de gens à travers votre travail? C'est-à-dire les personnages que vous avez incarnés, la création de l'imaginaire que vous avez incarné à travers tous ces personnages, tous ces textes que vous avez, dans lesquels vous vous êtes imprégné totalement.
Ouais, je pense que, oui, je pense que grâce à mon métier, je pense que j'ai rendu service quelque part. C'est comme ça que je l'exprime. En tout cas, pour répondre à votre question d'une façon plus précise, je pense que c'est ce qui m'a empêché d'être trop pessimiste ou qui m'a éloigné de mes idées suicidaires de ma 20e année, parce que des fois, quand on est jeune, et qui m'a convaincu qu'il y avait quelque chose de bon quelque part.
C'était votre destination bonheur que ce travail.
Oui, absolument. Et puis j'ai eu tellement de témoignages aussi. Vous savez, les gens sont très bien élevés. En général, dans la rue, là, les gens qu'on rencontre et tout ça, et puis je ne me suis jamais fait insulter. Je me suis déjà fait insulter, c'est évident, il y a toujours des cons. Mais je veux dire, en général, les gens sont très, très gentils. Et à Montréal, ça ne m'arrive pas souvent, vu que je suis un gars de l'Ouest, et puis il y a toutes sortes de monde. Bon, c'est les Nations Unies, Montréal. Mais à Québec, par exemple, ou en région, partout, les gens me disent bonjour à peu près comme si j'avais été élevé avec eux, comme si j'étais dans le salon avec eux. Et puis, c'est là que je vois ce dont vous parlez, c'est-à-dire le bonheur que les gens ont eu à me voir faire tout ce que j'ai fait pour eux. Pas seulement au théâtre, parce qu'au théâtre, c'est quand même pour une population très restreinte, mais les choses que j'ai pu faire, la télévision, au cinéma. Et puis, comme ma marque de commerce a toujours été de faire de la qualité d'abord, et puis...
Et des grands rôles, il faut bien dire.
Oui. La vie était bonne. On m'a confié de très grands rôles, de très belles choses, et je les ai fait bien.
Alors, on termine cette première demi-heure avec une chanson un peu légère.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui, mais le garçon n'est pas si léger que ça.
Non. Vous avez pu le croiser.
Malheureusement, ma femme l'a interviewé. Ma femme est réalisatrice, elle l'a vu à Paris. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai vu chanter ici, j'étais tout jeune. Je l'ai vu au Saint-Denis, je me souviens. Il s'agit de Yves Montand, bien sûr, qu'on a évidemment, comme ça arrive avec plusieurs, essayé de salir après sa mort. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment être des médiocres pour essayer de descendre de leur socle des monuments pareils. Mm-hmm. Et Montand est un homme qui s'est fait à coups de pied, à coups de poing. C'est un homme généreux. C'est un titi qui vient de la base. Et puis, il a tout fait avec un sourire extraordinaire. C'est un acteur merveilleux. Et si j'ai pris cette chanson-là, c'est parce qu'elle est légère, c'est vrai, mais la bicyclette compte beaucoup pour moi dans ma vie à cause de la Céleste. Et puis, en plus, j'aime le personnage de fille qu'il y a là-dedans. Puis j'aime l'époque aussi, on dirait que c'était un peu entre deux guerres.
La bicyclette Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons. Nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.